Hello! Le podcast Job & Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute! Mais bonjour Astrid.
Bonjour Victoria.
Et comment vas-tu aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui, bien, je vais très bien. Il y a un énorme soleil dehors et je trouve que déjà ça met pas mal en joie.
Oui, c'est vrai. Et il va faire super chaud aujourd'hui, c'est vrai. En fait, je commence toujours finalement le podcast par demander si tu veux bien te présenter dans tes mots qui tu es.
Alors, qui je suis? Ça, c'est une grande question. Je pourrais te dire, eh bien, j'ai eu trois vies jusque maintenant, c'est-à-dire que j'ai eu quatre enfants en cinq ans dont je me suis occupée pendant une dizaine d'années comme mère au foyer. Et puis, j'ai tout fait un petit peu à la maison. J'adorais mes enfants, mais j'avais besoin d'autres choses aussi. Et j'ai repris le chemin de l'hôpital où j'ai été pendant une petite dizaine d'années aussi, comme infirmière, ce qui est ma formation de base. Et puis, au bout de ce temps-là, je me suis réorientée pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis coach et formatrice, pas mal, avec une approche pas mal fondée sur la communication non-violente, et j'accompagne les parents, les soignants, tous ceux qui ont la responsabilité d'autres, donc des managers aussi, à s'écouter, à prendre soin d'eux pour pouvoir mieux prendre soin des autres et de ceux qui leur sont confiés. Maintenant, j'ai envie de te dire aussi qui je suis au-delà de cette carte d'identité un petit peu sociétale. Voilà, c'est une question compliquée, je trouve, parce qu'on est quelqu'un en perpétuelle évolution. Et ce que je peux dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que de plus en plus, j'aime me relier au vivant, à l'être vivant qui est devant moi, mais aussi à tout son environnement, qu'il soit professionnel, privé. Je pense que le vivant va au-delà de ça, il va aussi dans la nature, les animaux. Voilà. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de te dire.
Mm-hmm. Oui, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai que c'est là où tu en es aujourd'hui et qui sait demain, finalement. Ça peut encore changer.
Tout peut changer pour voilà. Tout le monde.
Mais c'est super gentil, en tout cas, de venir témoigner sur le podcast de Job & Sense. Alors, pour les auditeurs, le podcast sera un peu différent de ceux précédents de Mon Rebond parce que dans les précédents épisodes, il y avait chaque fois une partie d'arrêt maladie et c'est quelque chose que tu n'as pas vécu, mais que tu fais un rebond, tu as fait un rebond différent, plusieurs rebonds d'ailleurs aussi, et on va revenir sur ton parcours tout de suite. Alors, justement, je voudrais commencer parce que t'as eu trois vies et je trouve que la première vie dont tu parles, c'est pas toujours facile justement au niveau social à l'heure actuelle justement de prendre du temps pour ses enfants et aussi de retourner vers le marché du travail parce que finalement, enfin, tu n'as pas vécu d'arrêt maladie, non, néanmoins tu as eu une période hors du marché du travail pendant 10 ans et je trouve que c'est intéressant justement de dire que voilà, comment est-ce que finalement comment tu as vécu cette période-là et puis finalement, comment est-ce que tu as senti que c'était le moment de reprendre le chemin du travail et est-ce que c'était facile pour toi?
Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question, hein.
Oui, pardon.
Je vais essayer d'y répondre. Est-ce que c'était facile? Quand est-ce que j'ai senti que je devais reprendre le chemin du travail? Tout simplement, c'est quand j'ai fait le choix, tu le disais, qui n'est pas facile au niveau sociétal d'être mère au foyer. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. La maman, l'épouse, fait un peu partie des meubles, hein, de la maison. Et donc, il y a un moment où je sentais que j'avais envie de contribuer plus à la société que juste à mon noyau familial aussi. Et puis, j'observais que, justement, j'avais fait le choix de me consacrer à mes enfants et que je n'arrivais pas à être la mère que j'aspirais à être. Je m'observais m'énerver beaucoup plus que ce que je voulais sur eux. Et donc, en fait, ça ne me convenait pas du tout. J'étais en conflit intérieur entre ce que j'aspirais à vivre avec mes proches et ce que je m'observais vivre. Et donc là, je me suis dit qu'il était temps que je reprenne le chemin du travail. Alors, ça n'a pas été spécialement simple. Il y a des hôpitaux qui m'ont dit, après 10 ans, mais vous pensez bien qu'on ne peut pas vous reprendre. Vous devez reprendre des études, même en tant qu'infirmière. Et j'ai eu énormément de chance à l'époque. C'est que j'ai recontacté l'infirmière chef avec qui j'avais travaillé avant d'avoir mes enfants. Et qui m'a dit directement, ah ben moi, j'ai besoin de quelqu'un et j'ai envie que ce soit toi et on va te reformer nous-mêmes. Et j'ai bénéficié, en fait, j'ai eu une chance inouïe, bénéficié d'un encadrement, mais hyper bienveillant. Et non, ça n'a pas été facile tous les jours, évidemment. J'avais l'impression que je pouvais voir le trajet entre mes neurones qui se refaisaient chaque fois. Je voyais que les informations entraient parfois beaucoup plus lentement que ce que je ne le voulais. Et en même temps, ça m'a, en fait, appris un beau chemin d'humilité aussi. Voilà. D'accueillir que, voilà, tout ne va pas toujours au rythme qu'on le souhaite et qu'on le désire. Et qu'en même temps, bien, il y a des cadeaux qu'on reçoit, comme cette infirmière-chef qui m'a tout de suite dit oui. Voilà.
Il y a la chance, mais il faut saisir sa chance aussi. Et c'était aussi, j'imagine, par ce que tu avais vécu au travail avant avec elle et tout, qu'elle s'est dit, mais tiens, c'était quelqu'un de super qui t'a redonné ta chance, mais... Mais c'est vrai qu'il faut la saisir, il faut y aller et il faut avoir aussi finalement pour ce retour au travail. Et on parlait de au salon Rebondir d'estime de soi et c'est vrai que je pense que c'est ça parfois aussi ce qui est un peu atteint aussi pendant une période d'arrêt maladie, mais parfois aussi quand on est justement à la maison, parfois on a moins d'estime de nous. Parce qu'on a quitté le marché du travail pendant un petit temps. Donc, c'est le parallèle que moi, je vois avec la période d'arrêt maladie. Voilà, on a une belle conférence là-dessus, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais après ça, donc, tu as repris un chemin du travail en tant qu'infirmière, infirmière qui a un métier quand même avec des horaires difficiles, où ça allait?
Oui, alors... C'était des horaires difficiles, évidemment, mais moi, ça m'a tellement renourri, en fait, ce lien avec les gens. C'est quelque chose qui, pour moi, est vital, en fait. Et donc, ça contrebalançait cette fatigue. En tout cas, dans un premier temps. Moi, je voyais des collègues fatigués et je disais que moi, j'étais à l'hôpital en vacances. Voilà, pour t'expliquer un peu le contraste que je pouvais vivre. Et ça m'a permis de profiter beaucoup plus de moments avec mes enfants et tout ça. Je te dis dans un premier temps parce qu'après, effectivement, petit à petit, j'ai senti que mon énergie recommençait à diminuer. Et là, je me suis dit que si je ne changeais pas quelque chose vraiment de fondamental dans mon équilibre, eh bien, petit à petit, j'allais m'épuiser comme bon nombre des soignants que je croisais autour de moi. Voilà. Et j'ai envie de...
Oui, pardon, vas-y.
Oui, et que c'est là que ça a commencé, en fait, enfin, ou que mon chemin a continué, peut-être, voilà. En étant à l'écoute de cette énergie chez moi.
Est-ce que c'est la société, enfin, l'hôpital qui a changé, ou est-ce que en 10 ans, est-ce que tu as vu une différence par rapport à l'ambiance, le stress véhiculé, ou c'est autre chose? Comment tu l'expliques?
Je pense qu'il y a... que c'est plurifactoriel. Il y a d'un côté, j'avais beaucoup évolué au niveau maturité. Évidemment, je n'étais pas la même à 20 ans qu'à 30 quand j'avais 4 enfants. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a au niveau sociétal, il y a un vrai changement. Je pense que les personnes qui font un burn-out maintenant ne sont que le dessus de l'iceberg d'une société qui est un peu malade. enfin voilà, moi c'est comme ça que je le vois, qui va de plus en plus vite. Et donc l'hôpital n'échappe pas à la règle. L'hôpital est composé d'individus qui sont magnifiques. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à consacrer comme ça sa vie, ses week-ends, ses nuits pour s'occuper des autres. Donc les individus sont, quand je les regarde individuellement, ils sont tous de belles personnes vraiment. Et en même temps, ben, l'hôpital est un endroit où le stress est partout, partout. Parce que tu t'occupes d'être vivant, parce que ça vient réveiller des émotions chez toi, c'est parce que qui te rappelle que tu es vivante aussi, mais quand c'est la dignité ou l'humanité d'un autre être humain qui est en danger, ben, ou qui est malmené, et ben, c'est un peu ton humanité à toi qui est malmenée. Et donc, et ça ne fait pas partie de notre cursus. Je crois que c'est quelque chose qui... On ne nous a jamais appris à accueillir nos émotions, à accueillir ce qui nous traversait. Et vu qu'il y a les contraintes budgétaires aussi, on ne nous laisse pas le temps de les accueillir. Voilà. Il y a un turnover, il n'y a pas tellement d'espace de travail pour les soignants. Les hospitalisations, ça, effectivement, ça avait changé aussi. C'est que les hospitalisations étant tellement plus courtes, il y a un turnover de patients nettement plus important. Donc, tout l'un dans l'autre, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment plurifactoriel.
À partir de quand, de combien d'années est-ce que tu as commencé à te dire que tu voudrais changer?
Ah, j'ai senti ça déjà après 1 ou 2 ans. À ce moment-là, j'ai demandé une bourse en fait à la Fondation Saint-Luc pour pouvoir comparer les cliniques universitaires Saint-Luc, le service où j'étais, avec le Gasteuisbergen service, en me disant chez les Flamands, ils sont beaucoup plus organisés, il y aura moins de charges de travail, qu'est-ce qu'on peut importer? Et puis, j'ai vu qu'en fait, c'était beaucoup plus complexe que ça, que l'épuisement était vraiment... Ça touchait à l'individu, mais ça touchait aussi au groupe, à l'équipe, et que ça touchait à la société en général. Et que c'était quelque chose de très complexe qui... Et que, tout organisé qu'ils étaient, je ne retrouvais pas cette fibre humaine. Au contraire, je trouvais que l'humain désertait encore plus l'hôpital, alors que c'est un lieu qui devrait être tellement humain.
Mais donc ça, c'était quand même assez vite après. Donc ça t'a pris quand même quelques années finalement de... Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années justement où tu savais que tu voulais changer?
Je ne savais pas spécialement que je voulais changer, j'étais en quête. Donc j'ai été faire... J'ai été travailler comme ça au Gasteuisbergen que j'ai comparé. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée de plus en plus au burn-out puisque je voyais que c'était quelque chose de complexe. D'un côté, je me suis intéressée au burn-out, mais de l'autre côté, je me suis dit, moi, de mon côté, il faut que je m'outille, en fait, pour faire face à ce stress, puisque j'adore ce métier et que j'ai envie de pouvoir rester au chevet des patients avec la même joie d'y être. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai croisé la communication non-violente. Je me suis inscrite au premier week-end, pas tellement pour prendre soin de moi, du tout, en me disant, mais... En fait, je vis des trucs compliqués, j'en ai marre de crier sur mes enfants le soir, donc je vais m'inscrire en communication non-violente. Et puis, en fait, ce que ça m'a appris, c'est que si je voulais m'énerver moins le soir sur mes proches, il fallait que je commence à être à l'écoute de ce qui se passait en moi, petit à petit. Et donc, j'ai fait un petit peu les deux en parallèle, me former à ce qu'était le burn-out et la communication et les stages de communication non-violente.
Et donc déjà, dans ta pratique d'infirmière, tu mettais déjà des choses en place à ce propos?
Ah oui, ça c'est directement, en fait, j'ai pu percevoir combien cette communication non-violente, dont on ne connaît pas très bien, ou que pour certains le nom est un peu flou, mais me portait au quotidien pour vivre des relations avec les autres beaucoup plus saines, avec mes patients, avec les familles des patients, avec mes collègues, tout à fait. C'était simplement mettre de la clarté sur ce qui se joue, sur où est ma responsabilité, quels impacts ça a dans la relation, pouvoir écouter ce qui est au-delà des mots chez les uns et chez les autres, ce qui est tellement difficile en fait. Ce dont on n'a pas appris.
Oui, mais aussi pour tout ce qui était justement burn-out, comme justement il y en a beaucoup des infirmières, etc. Donc, autour de toi, il y avait pas mal de personnes qui tombaient en arrêt maladie pour burn-out, j'imagine.
Pas mal, je ne sais pas, mais quand il y en avait, je pouvais percevoir que ce n'était pas que l'hôpital qui était touché, en tout cas. Enfin, qui en était la cause. Je pouvais voir aussi que souvent, il y avait des choses du côté de la sphère privée, parce qu'on est pas un, je veux dire qu'on n'est pas un disque dur avec d'un côté le privé et un autre disque dur le professionnel, mais que les deux sont complètement mélangés, qu'on le veuille ou non. Et voilà, c'est oui, elle partait en burn-out, mais c'est pas spécialement, pas toutes non plus. On a tous des moments plus durs et c'est ça la vie en fait, hein. C'est des joies, mais c'est aussi des peines et tout ça. Tout le monde ne part pas en burn-out non plus.
Comme tu avais une formation de... Enfin, tu étais attentive à ces histoires de burn-out, est-ce que tu as pu... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta...
Dans ton entourage
oui. dans ton équipe plutôt qui a utilisé justement ces compétences-là? Est-ce que tu as pu mettre en pratique certaines choses de prévention du burn-out, etc., auprès de tes collègues?
Non, c'est ce que je pensais au début, mais en fait, 90% du travail, c'est de soi à soi. Déjà, de moi être bien, je pense que déjà, ça permet à l'équipe d'avoir une source. Et alors, je ne l'étais pas toujours, c'est ce à quoi j'aspirais, hein, mais c'est une source d'énergie en plus, quoi. Qui n'est pas toujours compris non plus, parce que quand tu dis je ne vais pas faire ce week-end parce que je suis crevée et que j'ai envie de prendre soin de moi, quand j'en ai déjà fait un autre, c'est pas toujours compris au sein de l'équipe, parce qu'en fait l'hôpital est en tel stress et en tel manque de personnel que quand on prend soin de soi, on se sent très vite coupable aussi. Donc c'est pas toujours facile. Ce que j'ai pu percevoir, c'est que c'était une magnifique manière pour rester en lien avec notre humanité. Et c'est ça qui me donne de l'énergie au quotidien, en fait. Et quand j'ai perçu ça, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose. Petit à petit, je me sentais en conflit intérieur entre prendre soin de mes patients, oui, mais de voir les autres qui coulent, et alors que j'ai les outils pour les aider, ou en tout cas que je perçois la route qu'on pourrait prendre, ça m'a donné envie à un moment de passer à l'étape suivante. Et donc, j'ai commencé à suivre une formation de coaching, j'ai continué à me former en communication non violente, mais pour préparer l'après, en fait. Parce que être à la fois dans l'hôpital et en dehors, c'était compliqué.
Et t'as eu un déclic à un moment donné, tu t'es dit, maintenant, c'est le moment de partir?
Le déclic, il est venu, je ne m'y attendais pas tellement. J'avais commencé mes formations à gauche, à droite. Et puis, j'ai croisé deux professeurs de psychologie de l'UCL, Moira Mikolajczak et Isabelle Roskam, alors que je cherchais à me former de manière complète par rapport au burn-out. Je voyais des formations de 2 jours, 3 jours, mais je voulais quelque chose de plus conséquent. Et donc, à 3, nous avons monté l'Académie Burn-out, qui est aujourd'hui reprise par l'UCL sous la forme d'un certificat universitaire. Et donc, là, quand j'ai commencé à coordonner cette Académie Burn-out, j'ai donné ma démission à l'hôpital parce que j'arrivais plus à tout faire de front avec toujours les 4 enfants à la maison aussi.
Il ne faut pas les oublier, ceux-là.
Non, ils étaient bel et bien là aussi. Oui.
Oui, donc c'est ça. Donc c'est une opportunité finalement de faire cette académie qui a fait que tu as sauté le pas finalement tu as démissionné et tu as sauté le pas vers le... Tu t'es lancée en tant qu'indépendante.
Oui, voilà, complètement. Je me suis lancée en tant qu'indépendante. Ce n'était pas la meilleure époque, hein, c'était en 2019. Donc, ça a commencé sur des chapeaux de roue, l'Académie Burnout, et puis le Covid est passé par là. Donc, ça a été moins évident. Bah, ça m'a redonné du temps. Je suis très heureuse d'avoir pu, à ce moment-là, faire de l'intérim un peu dans tout l'hôpital, dans tous les services, pendant la période Covid. Et puis, petit à petit, bah, les activités ont pu reprendre. Et donc... là, j'ai vraiment fait un pas de côté par rapport à l'hôpital. Et maintenant, je suis 100% dans ma nouvelle, dans mon nouvel emploi indépendant. Oui.
Mais donc, t'étais pas, quand tu as quitté l'hôpital, tu n'étais pas dégoûtée par l'hôpital non plus?
Non, jamais. J'ai jamais été dégoûtée par mon métier. J'ai toujours adoré mon métier. La raison pour laquelle je l'ai quitté, c'est que je ne pouvais pas être à la fois au chevet des patients et m'occuper des soignants, c'était pas possible. Et enfin, j'avais pas l'énergie de faire les deux. Et pour moi, il y a vraiment une urgence à s'occuper des soignants. Mais au-delà de ça, j'ai pu voir avec la burn-out que c'est s'occuper du soignant, mais c'est s'occuper des parents qui ont des enfants. et sur qui il y a une charge énorme. Et puis, c'est s'occuper aussi de tous les managers qui ont aussi des collaborateurs dont ils sont responsables et qui sont aussi confrontés aux mêmes problématiques. Voilà.
C'est les managers, tu veux dire les managers dans toutes les entreprises ou des managers vraiment liés à la santé et l'hôpital?
C'est aussi en dehors de l'hôpital.
Donc maintenant, tu t'es spécialisée finalement dans l'accompagnement du burn-out en tant qu'indépendante?
Oui. Je me suis spécialisée là-dedans et je donne aussi, j'ai donné pas mal de formations avec la médecine du travail dans les hôpitaux, en gestion des émotions, en gestion du stress, un petit peu tout ça. Et je continue de plus en plus. Voilà, je suis dans le chemin de certification dans le parcours de certification en communication non violente. Et puis le jour où je serai certifiée, je pense que je ferai des vraies formations là-dessus aussi. Même si c'est déjà teinté, que mes formations sont déjà teintées.
Et au niveau donc de ton côté, de te lancer en tant qu'indépendant, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de te lancer?
Alors oui, on a toujours peur quand on fait des challenges. Hein. J'ai eu peur d'aller travailler en Flandre avec cette bourse parce que je ne connaissais pas spécialement bien le flamand. J'ai eu peur, oui, de me lancer, évidemment, parce que c'est jamais simple. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenue énormément là-dedans, même si lui était en plein revirage professionnel aussi. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais il n'a jamais douté, en fait, de ce que je voulais faire. Et ça, c'est un soutien énorme, en fait, quand tu as l'entourage derrière. Et puis, j'étais portée par cette conviction qu'il y avait urgence et qu'il y a toujours urgence à s'occuper des soignants et du monde des soins.
Est-ce que tu as été accompagnée pendant te lancer en tant qu'indépendante?
Non, pas spécialement. Je me suis mise en lien avec des plateformes, oui, de femmes indépendantes. Et ça, il y avait pas mal de choses en fait en ligne pendant le Covid pour ça, qui étaient assez porteuses. Donc ça, oui, ça m'a accompagnée, ça m'a un petit peu, oui, je peux pas dire que du coup j'ai pas été accompagnée. Et puis après, en fait, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'ai mis en route à ce moment-là qui fait que maintenant j'ai du travail. Mais évidemment, ça vient pas du jour au lendemain.
Et qu'est-ce que finalement tu aimes dans ton métier actuel et qu'est-ce qui est plus difficile?
Alors, dans le métier actuel, ce que j'aime énormément, c'est d'être au service de la vie en général, d'être au service de la personne, de sa vie, parce que j'ai la conviction, tu vois, que je suis peut-être un individu, mais je suis reliée à un grand tout. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et d'écouter la vie qui circule en eux va leur permettre... Enfin, de mieux se connaître, de pouvoir rayonner leur plein potentiel, et c'est comme ça qu'ils vont chacun pouvoir contribuer au mieux à la société, parce qu'on est face dans la société à des défis énormes, et d'apprendre à mieux se connaître, à ralentir, pour pouvoir tisser des ponts entre nous. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un vrai enjeu pour toute notre société, en fait.
Mais est-ce qu'il y a des côtés que tu où tu as plus de mal? Enfin, moi, en tout cas, ce que je dis en général sur la plateforme, c'est qu'il n'y a pas vraiment de métier 100% parfait. Qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles c'est plus difficile. Et, oui. Et voilà, je me pose la question du coup, si toi, tu as peut-être trouvé la recette.
Non, il n'y a pas de recette parfaite, comme tu dis. J'adore, c'est ça qui me donc d'être en lien avec les gens, c'est ça qui me donne vraiment de l'énergie au quotidien. Et en même temps, eh bien, le revers de la médaille, c'est que moi, j'adore travailler en équipe. Je n'avais pas fait le domicile, j'avais choisi l'hôpital pour cette raison. Et qu'ici, eh bien, je me retrouve fort seule, en fait. C'est pas toujours évident. Et ça, c'est un défi du quotidien, c'est d'arriver à rester en lien avec les uns les autres, malgré, et avec le travail qu'elle a à côté, parce que seule, ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est peut-être le côté qui me pèse le plus.
Oui, on le dit pas souvent, mais c'est vrai, la solitude de l'entrepreneur, finalement, elle existe. On peut se sentir isolé, justement. Surtout au début, peut-être. Voilà, maintenant, il y a des solutions comme du coworking et des choses comme ça, mais ça, ce n'est pas non plus spécialement un travail en équipe.
Non, on travaille à côté les uns des autres. C'est déjà quelque chose. Hein. Ça peut déjà être une source d'inspiration. J'ai adoré comme ça réfléchir au développement de mon activité avec d'autres. Mais au quotidien, une fois qu'on est lancé, c'est vraiment un défi d'arriver à continuer à travailler en équipe alors que bien coach ou formatrice, c'est plutôt individuel.
Et si tu voulais dire quelque chose peut-être aux personnes qui vivent un burn-out, justement, peut-être plus spécifiquement dans l'hôpital ou pas, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ou quels sont les messages que tu voudrais leur faire passer?
J'ai envie de leur dire, premièrement, mais ralentissez sans culpabiliser. On est dans une société qui va de plus en plus vite et je pense que de s'autoriser à ralentir, de s'autoriser à s'écouter, ça va être la clé de leur rebond. Écouter son énergie, écouter les besoins qui sont les nôtres, parce qu'on n'est pas des robots, hein. On est des êtres humains avec des besoins qui nous meuvent tous les jours, enfin, c'est ça qui fait qu'on se met en mouvement. Et donc, être à l'écoute de ses besoins, ça demande un petit peu de temps. Ça demande juste de la présence à soi. Et puis, ça nous permet aussi, quand on ralentit, d'être dans l'écoute de l'autre et de ses besoins à lui. Et je pense que c'est une fois qu'on a ralenti et qu'on se remet au rythme de la vie, qu'il y a l'abondance qui peut arriver. Enfin, quelque chose comme quand on est dans le respect du rythme de la vie, il y a une certaine justesse qui se met au travers des choses qu'on croise. Et donc, ne pas hésiter à ralentir. Et puis... Parce que en étant à l'écoute de leurs besoins aussi, elles vont apprendre petit à petit à mieux se connaître, à s'apprivoiser, à savoir ce qui fait qu'elles sont là. Parce que chacun, si on est là, c'est qu'on a notre place à occuper pleinement. Et donc, c'est en écoutant ces besoins qu'elles vont apprendre de mieux en mieux se connaître, en fait, quelque chose comme ça. Et qu'elles vont pouvoir rayonner de là où elles sont. Et qu'aujourd'hui, le monde a terriblement besoin de chacun d'entre nous et de tout son potentiel.
Et quand tu dis justement t'es de plus en plus attirée par tout ce qui est la nature et tout, est-ce que tu l'utilises justement dans tes accompagnements?
Pas assez. J'avais pensé faire du coaching en promenade, donc en marchant en fait. Et puis voilà, le fait est que là, bah, tu vois, j'ai pas osé. Mais il y a un mois, une coachie m'a dit qu'avec le soleil qui est dehors, la prochaine fois, on ne peut pas le faire en marchant. Donc, c'est quelque chose que je vais tester prochainement. Oui.
C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien au moral aussi. Oui.
Ça fait du bien au moral et en marchant, on se met en mouvement. Donc, je suis persuadée qu'il y a des choses qui bougent dans la tête aussi.
Oui, à tester donc.
À tester. Ça, je ne vais pas pouvoir te le dire maintenant. Non.
Oui, et en termes de justement tout ce qui est l'hôpital et les infirmières, pour tout ce qui est peut-être communication non violente ou justement gestion préventive du burn-out, des personnes qui sont un peu entre deux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
J'ai envie de leur dire de ne pas oublier de prendre soin d'elles, que quand elles arrivent à l'hôpital, qu'elles laissent leurs vêtements au vestiaire, hein, et qu'elles mettent leur blouse d'infirmière ou de médecin, parce qu'il y a beaucoup de médecins en souffrance aussi, qu'ils n'oublient pas qu'il reste une personne à part entière et qu'en écoutant leurs besoins au cours de la journée, déjà, c'est une manière de se respecter soi-même. C'est une manière aussi, du coup, une fois qu'on se sent respecté, c'est beaucoup plus simple d'aller à la rencontre des patients. Il y a quelque chose comme, c'est pas possible de prendre soin de l'autre comme on le voudrait. Or, on a fait ce métier parce qu'on a envie de prendre soin de nos patients de manière humaine. Quand notre propre humanité, en fait, est bafouée, que nos propres besoins ne sont pas entendus. Et donc, c'est tout sauf égoïste de prendre soin d'eux. Et qu'ils se l'autorisent, ça va être une source d'énergie autour d'eux à l'hôpital et pour les patients aussi, ils s'en occuperont beaucoup mieux.
Oui, c'est pas toujours facile effectivement de prendre soin de soi et quand on a aussi parlé pendant le salon, c'est, on a fait un cercle de paroles là-dessus, c'est comment prendre soin de soi. Je trouve que c'est, on dit prends soin de toi, alors on l'entend, et puis ça ressort.
Oui.
Pas toujours, et c'est bien de le rappeler, justement, comme tu fais. C'est bien de le rappeler plusieurs fois, de le se dire plusieurs fois, et d'y penser, je sais pas, de coller ça quelque part, peut-être comme sur un mur ou je sais pas quoi, mais c'est de rappeler qu'il faut prendre soin de soi. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on dit prendre soin de toi et que ça peut vraiment être galvaudé. Il y en a même l'autre jour qui me disait, j'ai l'impression qu'on dit ça juste pour se décharger du mal-être qu'on a en étant être face à quelqu'un qui va pas bien. Mais évidemment que ça provoque du mal-être chez nous et qu'on peut avoir tendance à dire prends soin de toi pour se dire j'ai fait ce que je pouvais plutôt. Alors qu'en fait, quelqu'un qui est en souffrance a juste besoin qu'on soit devant lui, que quelqu'un puisse entendre combien c'est dur. Si je dis prendre soin de soi ici, c'est pas dans cette optique-là. C'est parce que je suis vraiment convaincue que, et ça peut passer par des petites choses, hein, quand on marche dans les couloirs de l'hôpital, juste se poser et poser son attention sur soi et se dire, mais là, comment je vais? Ah oui, j'ai soif, je vais quand même faire un détour par la fontaine pour prendre un verre d'eau. Et puis repartir, ou des petites choses comme ça, c'est des petites choses qui changent nos journées en fait.
Non, mais tu as raison d'insister sur le fait que ça peut être des petites choses, ouais. Et finalement, tu as raison de dire aussi il faut s'écouter. Et quand on s'écoute, effectivement, ça peut être juste un verre d'eau, prendre une tasse de thé, respirer, aller respirer l'air dehors ou des choses comme ça, c'est vrai,
oui, et puis. Parfois, on a des to-do list tellement énormes qu'on se dit, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. On est déjà vraiment en retard dans tout notre travail. Et à ce moment-là, souvent, en tout cas, quand je me relis à quand je courais comme ça, j'étais un peu comme une poule sans tête, quoi, à courir dans tous les sens. Et ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus efficace. Et là, si je m'autorisais à m'arrêter, à prendre juste, mais pas m'arrêter pendant une demi-heure, hein, m'arrêter 5 minutes pour me respecter, pour me poser, ça permet à mon cerveau aussi de traiter l'information. Parce que sinon, il n'a plus d'espace de pause pour traiter notre information et on n'est pas efficace dans ce cas-là. On va à ce qui nous paraît le plus urgent, mais parfois, on n'a pas la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Non plus.
Merci beaucoup, Astrid, pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu voudrais encore dire un dernier mot avant qu'on termine?
Oh là là, ça c'est. Il y a tellement de choses à dire en même temps. J'ai juste envie de dire soyez vous-même, vous ne prendrez la place de personne et au contraire, vous en ferez profiter, mais tellement le monde et votre entourage.
Merci, c'est une belle conclusion. Et merci beaucoup pour. Je pense que ça se ressortira dans le podcast, mais tu as une douceur qui ressort même de ta voix. Je me dis, les gens. Ils seront pris par la main par toi, ils sont comme ça dans un cocon de douceur et de bien-être. Ça transparaît, mais non, c'est peut-être pas ça. Hein. Mais en tout cas, je me dis même que tu pourrais faire un podcast ça toi-même et que ça marcherait très bien.
Voilà. C'est gentil, merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup en tout cas, Astrid, de nous avoir donné du temps pour nous expliquer ton parcours et ton rebond, enfin tes plusieurs rebonds. Et merci beaucoup de ton partage.
C'était avec grand plaisir.
Et à une prochaine, certainement.
Certainement, quand tu veux. Merci, Victoria.
J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.